Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Panique 105.4 pour une émission un peu spéciale avec l'équipe d'Elles en parlent encore. Confinement oblige, pas de direct depuis le studio ce matin, mais on a tout de même tenu à vous bricoler une petite heure d'émission pour vous accompagner comme on peut pendant cette quarantaine. Au programme, des chroniques enregistrées avec les moyens du bord, depuis nos chez nous, et une sélection de musique qui nous file la pêche. Elsa et Bissi vous ont préparé un point sur la situation actuelle en s'intéressant tout particulièrement aux conséquences du Covid-19 sur les femmes et la santé mentale des personnes confinées. Et Lisa et moi-même vous avons préparé une liste de nos coups de cœur musicaux, littéraires, audiovisuels, etc. pour vous donner de quoi vous changer les idées dans les jours à venir. Bonne écoute à vous et on démarre cette émission avec le coup de cœur musical d'Alex, Blue Boss de Samba the Great.
Can I get a bit higher? It just blasted.
Got up exactly in the AM. Probably the hunger had struck me. The push to stay alive is upon me. When I wash the pain. Sorry that my work's in vain. The license to be an idle life, some time and force change. I understand and I bleed. Bleed even if there is no blood. My family washing out my tears. Their water thinner than blood. And I ain't talked to them in years. For them, I shed my blood. And now they shot me in the street. I thought that we were blood. It's not enough. Walk my fingers to the bone, and it's not enough. This mic I'm spitting on in my fridge is not enough. I'm an artist, this I know. Industry is not enough. And when the world stops treating people like they think we ain't enough. Sweep life under a rug, my G. Flawless when all eyes were watching. God, I awoke, my G. Honest, then I ordered a revolt and we saw, my G. Honest, we listened to our hearts. Change what was written on it. Mama said, he's a her, girl, you stuck up in the clouds. Well, I think we fly high, cause we stuck up in the clouds. We no longer in this world, cause we stuck up in the clouds. All we do is blow trees when you stuck up in the clouds. Till you're dead, yeah, she itching for a fixin' for her life, crackhead. And go ahead and try to tell me we ain't living in two different worlds, my. It's time for you to see that this is democracy. If the rich are getting richer, poor, how poor we gonna be? Oh, how dumb we gonna be? Freedom is the land of thee. Under your breath for free, my. Sweep life under a rug, my G. Flawless. No eyes were watching, God, I awoke, my G. Honest, then I ordered a reward and we saw, my G. Honest. Listen to our hearts and change what they written on it. Mama said, use your head, girl, you stuck up in the clouds. Well, I think we flying high, cause we stuck up in the clouds. We no longer in this world, cause we stuck up in the clouds. All we do is blow trees when we stuck up in the clouds. Dang.
Place à Elsa maintenant qui va vous faire sa chronique sur les femmes et le coronavirus et puis on enchaînera directement avec son coup de cœur musical à elle. C'est un titre de Miss Angel, Female Legend.
Bonjour à toutes, donc je vais faire une petite chronique sur les femmes et le coronavirus. Donc déjà comment les femmes sont exposées à cette épidémie et quel impact elle a sur leur vie avec notamment le confinement. Donc déjà, le coronavirus et le confinement que nous vivons donc impactent toute la société, c'est une restriction de nos libertés, ça augmente l'anxiété, il y a des gens qui ont peur de la maladie pour eux, pour leurs proches aussi qui sont à risque. Mais ce confinement impacte différemment et c'est d'autant plus violent, voire dangereux pour des personnes qui étaient déjà dans des situations compliquées, dans des situations fragiles avant cette crise. Donc on pense par exemple à de nombreux types de personnes, les sans-abri, les personnes migrantes, les personnes précaires, etc. Mais les femmes sont aussi particulièrement impactées par cette crise sanitaire et par le confinement. Donc déjà, parmi les groupes que j'ai cités avant, donc les femmes sont souvent fort représentées. Les femmes sont dans des situations économiques plus précaires que les hommes et elles occupent aussi majoritairement les métiers qu'on appelle de première ligne actuellement, dans tout ce qui est secteur des soins, les hôpitaux, les caissières, les personnes aussi qui travaillent dans le nettoyage. Donc par exemple, pour ce qui est de la fonction publique hospitalière, il y a donc, c'est 78% qui sont des femmes et 90% pour les infirmières et les aides-soignantes. Donc voilà, c'est des métiers de soins, de contact humain, où les femmes sont majoritairement présentes. Donc là-dessus, je voulais vous citer un article du Soir. Donc voilà la citation. « Les enfants ont vu leur mère prendre en charge les tâches ménagères, s'occuper des autres. Il s'agit d'activités qui sont encore considérées comme une sorte de prolongation des compétences naturelles des femmes. Et comme cela relèverait de leur nature, cela ne mériterait pas une rémunération juste. Car les secteurs en question sont en effet plutôt mal valorisés. Personnel infirmier, aide-soignant, caissière ont un salaire mensuel brut pour un travail à temps plein inférieur au salaire mensuel brut moyen des Belges. Or, on voit bien avec cette crise que ces fonctions dévalorisées sont tout à fait vitales pour notre société. Les femmes qui nettoient et désinfectent dans les hôpitaux ne peuvent pas faire de télétravail. On se rend compte, presque par l'absurde, que les fonctions les moins valorisées sont celles qui ont le plus de sens et de valeur réelle. La crise du Covid-19 ajoute à cette pénibilité une prise de risque importante pour ces secteurs de première ligne très exposés. Or, cette prise de risque ne sera pas rémunérée ni compensée. Voilà, donc je trouve ça assez intéressant de voir que les métiers précaires, très souvent occupés par des femmes, en fait, ce sont ceux qui sont vitaux. Je veux aussi parler des travailleuses du sexe, qui elles aussi sont en première ligne et qui ont dû, donc en première ligne par rapport au virus, et qui ont dû arrêter leur activité. Donc elles ont été interdites de travailler. Mais si elles continuent de travailler donc dans la clandestinité, il faut savoir aussi qu'elles n'ont pas de statut, donc pas de couverture sociale. Si elles continuent de travailler dans la clandestinité, bah, ce sera aussi plus dangereux pour elles dans des conditions qui peuvent être aussi plus compliquées. Voilà, donc ça c'était tout ce que je viens d'aborder dans le secteur professionnel. Je voulais aussi parler de l'accès à certains soins, certaines interventions médicales, notamment par exemple sur l'IVG. En Italie, par exemple, on a vu une augmentation des difficultés pour avoir accès à l'avortement, étant donné que les centres hospitaliers étaient surchargés. Et on voit aussi, pour ce qui concerne les accouchements, il y a eu, par exemple, on a dit à des femmes qu'elles ne pouvaient pas être accompagnées pendant leur accouchement, et parce que, voilà, pour des raisons de risque de contamination, et aussi qu'il y a eu une augmentation des violences obstétricales ces derniers jours. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont quand même super graves. Même en temps de crise, un système hospitalier, un système de santé devrait pouvoir assurer les soins les interventions nécessaires aux femmes, que sont notamment l'avortement ou l'accouchement. Voilà, donc ça, maintenant je vais aussi parler donc de comment le coronavirus et le confinement impactent les ménages, les femmes chez elles, en fait. Donc déjà, le confinement, donc c'est des enfants qui ne vont pas à l'école, donc qui sont à la maison, et donc une charge mentale qui augmente pour les femmes qui ont en général beaucoup plus pour rôle, enfin pour mission, d'accompagner leurs enfants. Donc là, elles doivent aussi se charger de l'enseignement, elles doivent se charger de les rassurer, de leur expliquer la situation. Elles doivent aussi plus nettoyer pour que tout soit bien désinfecté, etc. Et donc se charger plus des tâches ménagères et familiales. En Belgique, c'est encore les femmes qui assurent beaucoup plus ces tâches-là que les hommes. Donc toujours dans le milieu personnel, au domicile, il y a aussi les violences conjugales qui vont très certainement augmenter. En tout cas, c'est ce qu'on a déjà vu en Chine ou encore en Italie. En Chine, les violences conjugales ont doublé par rapport au même mois de janvier l'année dernière, dans les villes où il y avait un confinement. Donc en effet, quand on est avec un homme violent, être avec lui H24, en plus ne pas pouvoir, enfin oui, c'est très compliqué de fuir, ça augmente forcément les, on va dire, les malchances par rapport aux violences. Et d'autant plus que là où les femmes pourraient se réfugier, par exemple des maisons d'accueil, aujourd'hui ne peuvent plus recevoir de nouvelles personnes du fait du risque de contamination. Et de plus, c'est aussi plus compliqué d'appeler à l'aide, par exemple de téléphoner lorsque son agresseur est dans la pièce d'à côté. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment très, très problématique. Il faut vraiment faire attention. Si on est témoin aussi, par exemple, notre voisine ou quoi, de ces choses-là, de vraiment prendre les devants et essayer d'aider dans la mesure du possible. Donc, je rappelle qu'il y a un numéro gratuit pour les victimes de violences conjugales. Donc, c'est le 0800 30 030. Donc, c'est une ligne d'écoute qui peut donner des conseils adaptés à chaque situation. Et pour celles qui ne peuvent pas appeler, il y a aussi un chat qui est accessible sur le site www.écouteviolenceconjugale.be. Donc, violence conjugale au pluriel. Et en cas d'urgence, il faut appeler le 112. Voilà, donc pour conclure, on dit voilà que le confinement, c'est super. En effet, ça peut être agréable pour faire d'autres choses, des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, etc. Mais ça l'est surtout quand on a une maison, un jardin, un logement qui est sain, un salaire qui est stable, qui tombe à la fin du mois. Mais pour beaucoup, pour des personnes précaires, pour des femmes qui vivent avec des hommes violents, pour des personnes qui sont déjà isolées, là ça peut vraiment carrément virer à l'enfer et à une situation qui s'aggrave. Voilà, donc il faut vraiment faire attention de si en tout cas on est témoin de ces choses-là, de vraiment prévenir et protéger au maximum. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage pour ce confinement, beaucoup de solidarité, on va y arriver. Ciao.
It's always been like this. Yeah, it's always been like this. It's just more like on the knees. That's it. That's it.
Clagger, clagger on the. See me on a flyer. Save the date. Free food in the backstage. No gig, so you niggas can't relate. You had the few, but you niggas came late. Man, it's about that time. People tryna sign to get a piece of the pie. I just sit, relax, and smile. Funny how they all wanna be friends now. But you see, I can't blame them. Only been a year and my name is a trend. I am a legend, a female, yeah. Making it hard for the man, them hair. Post, press, play and repeat it. Yeah, self-made to the bone and I'ma preach it. Fakes in my DM, swiping, delete it. I said that I meant it and they can't believe it. Watch me go, I'm undefeated. Still 10 toes down in my sneakers. Pull up at my door when I might get heated. Now we don't do no features. Only with a gang that's full of keepers. Never ever on a lacking thing. Side eyes watching, shit got deeper. Do my walk in my hand, it's a reefer. Man, I'm all skeptic. Man, I'm all reaching. One, I got flow. No brag, but you see, I'm a pro. Two, painting. Tomboy, make a nigga bust quick. Three, I'm a G. Killing these gigs with low streamings. I am the goal for a couple reasons. They think I can spit, put this on repeat. Man, I all shook from the moves I make. Doubting me was a big mistake. I remember days just me and my slippers. Lonely nights trying to see where I'm asleep in. I don't even know where to start. I didn't have shit, man, I come from far. It was just me and my struggles, crying to God free me from my sorrows. It took time, and then I saw a light at the end of the tunnel. Took my pen and I wrote me a couple of rhymes. Still healing, but I'm doing quite fine. And where was you since you want some pie? And that's why I feel like begging sometimes. Building my own empire and I'm just getting started. Still 10 toes down in my sneakers. Pull up at my door when I might get heated. Now we don't do no features, only with the gang that's full of keepers. Never ever on a lacking thing. Side eyes watching, shit got deeper. Do my walk in my hand, it's a reefer. Man, I all skeptic, man, I all reaching. Still 10 toes down in my sneakers. Pull up at my door when I might get heated. Now we don't do no features, only with the gang that's full of keepers. Never ever on a lacking thing. Side eyes watching, shit got deeper. Do my walk in my hand, it's a reefer. Man, I all skeptic, man, I all reaching.
Salut tout le monde! Pour passer le temps d'une manière amusante et instructive pendant cette quarantaine, je vous propose ici une BD, un documentaire, un podcast, un article, un album, une féministe inspirante. Et je profite aussi de cette opportunité pour partager une bonne nouvelle, parce qu'on commence à avoir un peu marre de mauvaises nouvelles. D'abord, la BD. Il s'agit de Artemisia par Nathalie Ferlut et Tamia Baudouin. Et je l'ai lu il y a 2 semaines environ. Je la conseille vivement à toutes et à tous, peut-être surtout à celles et ceux qui aiment l'histoire de l'art, parce que Artemisia raconte la vie de la peintre italienne du XVIe siècle, Artemisia Gentileschi, avec un fort accent mis sur la relation complexe entre elle et son père, lui aussi un peintre célèbre, qu'on peut définir comme une relation d'amour et de soutien artistique d'un côté, mais quand même comme une relation traditionnelle, vu que le père considère sa fille comme sa possession, et vu qu'il n'ose pas de se révolter complètement contre les règles et les lois sexistes de l'époque. Quand Artemisia était adolescente, elle prenait des cours de peinture chez le peintre Agostino Tassi, qui commençait à la violer régulièrement. Il assurait le silence d'Artemisia avec un mélange d'intimidation, genre « qui te croirait ?» et de fausses promesses, en lui disant qu'il l'aurait épousée et donc réparer ses actes de violence et d'humiliation. Je vous donnerai pas tous les détails de l'histoire, évidemment, mais par la suite, il y avait un procès mémorable, un mariage, des naissances des enfants, pas toutes légitimes, un quasi-divorce, pas mal de voyages et surtout une carrière artistique incroyable et une révolution à l'intérieur de l'Académie des Beaux-Arts en Italie. Après, je vous conseille aussi le documentaire Delphine et Carole en sous-muse que j'ai trouvé dans la médiathèque d'Arte, une chaîne télé franco-allemande que j'adore. En gros, c'est un cliché instantané du féminisme des années 70 en France, qui est raconté à travers l'amitié entre l'actrice Delphine Seyrig, qui est super connue, et la vidéaste Carole Roussopoulos. Quelques mois avant sa mort, en 2009, Carole Roussopoulos a souhaité faire le portrait documentaire de son amie et co-militante féministe Delphine Seyrig. Malheureusement, Carole Roussopoulos est morte avant qu'elle ait pu réaliser ce projet. Mais le projet a été repris par ses enfants, et par sa petite-fille, Callisto McNulty, qui est la réalisatrice de ses documentaires. Carole Roussopoulos était la deuxième personne à acquérir une caméra vidéo en France, après Jean-Luc Godard. Après, elle initiait des femmes à ces médias lors des stages, auxquels s'inscrit également Delphine Seyrig. Habituée à jouer sous la direction des hommes, la comédienne voyait dans ce doutil la possibilité d'avoir une expression à soi. Carole Roussopoulos utilisait également sa caméra vidéo pour réaliser de nombreux documentaires et pour collectionner des témoignages précieux des femmes dans la rue, par exemple pendant des grandes manifs. Donc c'est super intéressant, regardez-le. Je veux seulement noter qu'il y a autour de la 20e minute une scène d'une IVG faite maison, performée par des militantes que certaines et certains pourraient trouver perturbante. Ensuite, je vous propose un podcast de Claire Fégre que j'ai découvert il y a quelques jours et que vous pouvez trouver également dans la médiathèque de Arte ou bien sur YouTube. Le podcast s'appelle Plaisir d'offrir et Claire Fégre raconte comment ça marche si une jeune femme sans enfant souhaite donner ses ovocytes en France. Il y en a 6 épisodes d'une quinzaine de minutes chacune, plein de blagues, mais évidemment aussi pas mal de trucs qui font vraiment réfléchir. En plus, je voudrais dire un mot sur un magazine en ligne féministe et entièrement géré par des bénévoles qui sont basés surtout en France et en Allemagne, qui s'appelle Roseau. Récemment, j'ai lu des articles très intéressants là-dedans sur la question peut-on différencier entre l'homme et l'artiste et sur le tokenisme, donc la pratique d'intégrer symboliquement une personne appartenant à une minorité dans une production, dans une entreprise, etc., pour donner une impression d'égalité et d'inclusivité. Genre, ce n'est pas un film sexiste, il y a un personnage féminin qui parle là-dedans. Voilà. D'ailleurs, ces personnages sont typiquement représentés d'une manière super stéréotypée et jouent des rôles mineurs. Et en plus, le magazine Rousseau cherche toujours de nouvelles collaboratrices bénévoles. Donc, si vous êtes à la recherche d'une opportunité de faire du journalisme féministe et en ligne, allez-y. Puis je me lance dans le monde de la musique, qui n'est vraiment pas le mien, mais je peux vous conseiller le premier album d'un duo italien-nigérien qui s'appelle Hit Kunle, qui fait du tropical rock. L'album s'appelle In the Pot et vous le trouverez sur Spotify, sur YouTube, etc. Même si les paroles ne sont pas exactement un manifeste féministe dans ce sens-là, leur musique fait vraiment bouger et mettre de bonne humeur, ainsi que leurs vidéos qui sont super colorées et super chouettes à regarder. Après, le confinement peut aussi se révéler comme une opportunité pour s'inspirer des féministes qu'on ne connaît pas encore. Et dans mon cas, c'est l'Éthiopienne Meazza Achenafi. Née dans un petit village rural dans une famille nombreuse, elle est devenue une pionnière du combat féministe dans son pays. Pendant ses études de droit à Addis Abeba, elle était la seule femme dans une classe de 50 hommes. Et quand elle obtenait son diplôme, elle était l'unique femme diplômée en droit en Éthiopie. Après, elle n'a jamais cessé de lancer des initiatives, comme par exemple l'Association éthiopienne des femmes juristes, qui soutient juridiquement les femmes dans les situations précaires. Jusqu'à ici, près de 5 000 femmes ont bénéficié de ses services. L'association encourage et soutient également des femmes candidates aux élections nationales et les femmes qui manquent des fonds pour terminer leurs études. En tant qu'avocate, Meazza Achenafi a représenté des milliers de femmes dans les domaines de la violence domestique et sexuelle, de la famille, de l'économie et des droits fonciers. D'ailleurs, son combat contre la pratique d'enlèvement des filles en vue de leur mariage a inspiré le film Diffré, primé au Festival du film de Sundance en 2014. En 2011, Meazza Achenafi était un personnage clé dans la création de la première banque des femmes en Éthiopie, la banque Ennahdh, qui contribue à l'autonomisation des femmes par un meilleur accès au capital. En novembre 2018, Meazza Achenafi est devenue présidente de la Cour suprême éthiopienne. Donc, si vous avez envie d'un coup d'inspiration, vous savez quel nom vous pouvez googler. Et finalement, parlons d'une bonne nouvelle de l'autre coin du monde. Le 18 mars, les membres du Parlement de Nouvelle-Zélande ont réformé le règlement de l'avortement dans le pays, en votant une loi qui décriminalise l'avortement et qui permet des IVG sur demande pendant les premières 20 semaines de la grossesse. Et avec ça, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et à bientôt.
On espère que les super recommandations de Lisa vous auront inspiré. Pour finir sa chronique, elle voulait partager avec vous l'un des morceaux du groupe dont elle parle dans sa chronique, justement, It Kunle. Et donc, on vous laisse écouter Bells.
Quiet.
À mon tour de vous partager mes dernières découvertes, coups de cœur, qui pourront, je l'espère, vous tenir compagnie pendant cette quarantaine. À suivre donc une série, un roman graphique, un livre, deux podcasts et un documentaire. Je commence avec la série. Fleabag, c'est une série britannique écrite par Phoebe Waller-Bridge qui tient également le rôle principal. En quelques mots, Fleabag, c'est l'histoire d'une trentenaire londonienne, paumée, qui tient un café qu'elle doit faire marcher seule depuis la mort de sa meilleure amie et partenaire, Boo. Cette série est un réel coup de cœur pour moi. C'est féministe, touchant, parfois cru, souvent cynique et loin, loin des clichés de la trentenaire célibataire. J'ai adoré suivre les aventures de celle que l'on surnomme Fleabag, ses déconvenues, ses questionnements, son rapport à la solitude et sa gestion du deuil. C'est également une série super intéressante sur la forme car elle casse ce qu'on appelle le quatrième mur. En fait, l'héroïne s'adresse à nous tout au long des épisodes, nous téléspectateurs et téléspectatrices, pour nous confier le fond de sa pensée sur sa famille, ses galères sentimentales ou ses difficultés financières et professionnelles. Donc en gros, le téléspectateur est invité et tient ici une position de voyeur qui est assez hors du commun. La série pourrait vous sembler dure, mais c'est réellement un bijou d'écriture que je vous recommande vivement. Du côté de ce qui se lit maintenant, je vous recommande le sublime roman graphique « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » d'Emile Ferris. À ce jour, seul le livre premier est paru, le second est attendu pour fin 2020, me semble-t-il. Alors, Emile Ferris nous conte l'histoire de Karen Reyes, 10 ans, fascinée par les monstres au point de s'imaginer être un loup-garou. Et tout commence un jour de Saint-Valentin, dans le Chicago de la fin des années 60, où la voisine de Karen se suicide d'une balle dans le cœur. Ne croyant pas au suicide, Karen décide alors de se transformer en détective privé et de mener l'enquête. Alors avant toute chose, ce livre est une pépite visuelle hors norme. Le dessin est presque entièrement fait au stylo bille, sur des cahiers et avec un style incroyable. Ça peut être un peu déconcertant au début, mais accrochez-vous, ça vaut vraiment le coup. L'histoire est tout aussi captivante, elle mêle drames familiaux, témoignages historiques sur l'Allemagne nazie et le tumulte d'un quartier pauvre et violent. J'ai également été particulièrement touchée par la sincérité de la relation entre Karen et son frère, qui est chouettement explorée au fil des pages, et aussi par le recours aux monstres, qui apporte une certaine poésie au traitement de sujets parfois durs. L'autrice parvient à établir un juste équilibre entre l'univers du surréalisme et celui du réel. Autre lecture, mais d'un tout autre genre, Libérée, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale de Titiou Lecoq. Et parce qu'en ces temps de confinement exceptionnel, hommes et femmes se retrouvent à la maison, il me semble d'autant plus intéressant d'explorer la question de la charge mentale dans les couples hétérosexuels. Comprenez, qui gère la liste de courses, qui prend rendez-vous chez le pédiatre, qui ramasse le linge sale, liste non exhaustive. L'espace privé et domestique est encore aujourd'hui principalement féminin, et il est grand temps que les hommes se sentent concernés, tant pour notre santé mentale que pour nous donner la capacité de prendre plus de pouvoir dans la sphère publique. Car comme le résume parfaitement l'autrice, pour que les femmes brisent le plafond de verre, il faut que les hommes brisent le sol de verre. Donc bref, lisez ce livre, mais surtout faites-le lire à vos mecs, vos potes et vos pères. Je poursuis mes recommandations avec un podcast cette fois-ci produit par Nouvelles Écoutes, Vieille Branche. Le concept, des interviews bimensuelles de personnalités de la politique, des idées, de la culture ou des arts, toutes âgées de plus de 70 ans. Vieille Branche, c'est l'ancienne génération qui échange avec la nouvelle, et c'est ce qui me plaît dans ce podcast. Car dans notre société où l'âgisme est un comportement largement répandu, la bienveillance et la curiosité de Marie Misset, qui mène les interviews, nous permettent d'en apprendre plus sur nos aînés et offrent un espace à la transmission. Avec un peu plus de 50 épisodes enregistrés à ce jour, le panel de personnalités interviewées est assez large, et parmi elles, des féministes comme Yvette Roudy, militante féministe et ancienne ministre des droits de la femme sous Mitterrand, Christine Delphi, sociologue et l'une des représentantes majeures du féminisme matérialiste, Michèle Perrault, historienne et militante féministe, et Cathy Bernheim, écrivaine, journaliste, traductrice et pionnière du MLF. Bref, plongez-vous dans ces histoires d'un autre temps et vous nous direz ce que vous en avez pensé. Autre podcast qu'on ne présente plus, Les couilles sur la table, produit par Binge Audio. Donc un jeudi sur deux, c'est Victoire Thuaillon qui explore un aspect des masculinités contemporaines avec un ou une invitée. Podcast d'utilité publique, selon moi, Victoire Thuaillon s'empare de la question du masculin et cherche à comprendre les conséquences de la domination masculine sur les hommes. Car au même titre qu'on devient femme, on ne naît pas homme, mais on le devient. Parmi les épisodes qui m'ont marqué sans aucun doute, l'entretien avec Jocelyn Tricot sur le clergé catholique et celui de l'avocate Isabelle Steyer sur les conjoints violents. Mais il y en a tant d'autres à découvrir, tous plus passionnants et instructifs les uns que les autres. Mention spéciale pour l'entretien de 4 épisodes avec Virginie Despentes. Et si ce podcast vous plaît, sachez que Victor Thuaillon a récemment sorti un livre du même titre, Les couilles sur la table, qui pousse un peu plus la réflexion autour de des épisodes enregistrés. Et dernier partage pour moi, le documentaire « À quoi rêvent les jeunes filles » réalisé par Ovidie que j'ai personnellement trouvé sur Dailymotion. Donc le documentaire date de 2014 mais me semble toujours d'actualité. Ovidie y questionne les codes du porno, des messages érotiques qu'on retrouve un peu partout, jeux vidéo, publicités, etc. et analyse leur influence sur la sexualité des jeunes filles. Elle y dénonce une imagerie sexiste qui entretient les bons vieux schémas archaïques et stéréotypés de la domination masculine. Car la génération Y a beau prôner une certaine liberté sexuelle, les injonctions aliénantes restent présentes. Sous une autre forme, une autre expression en comparaison avec les générations précédentes, mais présentes. Ovidie met ainsi le doigt sur les récentes évolutions des manifestations de la domination masculine. Et on peut citer par exemple l'obligation de s'épiler, le recours à la nymphoplastie ou chirurgie des petites lèvres pour avoir un sexe dit conforme, accepter telle ou telle pratique sexuelle et toujours la négation d'un plaisir propre pour les femmes. Pour autant, vous verrez que Ovidie ne prend absolument pas un retour en arrière et montre que la nouvelle génération n'est pas nécessairement dupe, mais qu'au contraire, elle réfléchit, ne subit pas et remet en question. Enfin bref, un chouette documentaire hyper instructif qui permet de se questionner un peu plus sur nos rapports au corps, nos rapports à la sexualité, que je vous invite encore une fois à regarder. Voilà, j'espère que ces recommandations vous inspireront et vous donneront envie de les découvrir et avoir tour de les partager. Prenez soin de vous pendant ce confinement et je vous laisse avec un morceau de The Internet Special Affair. I bet this was wrong.
Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui du Covid-19 et de notre santé mentale. Effectivement, on n'arrête pas de voir des conseils qui nous recommandent comment passer notre journée, comment prendre soin de nous, de bien manger, de bien dormir, de faire de l'exercice. Et ce n'est pas évident de naviguer en cette période difficile, surtout si on vit seul ou si on vit dans un cadre difficile. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des conséquences qu'a le confinement sur notre santé mentale. Donc, en fonction de l'état de santé mentale de chacun, les mesures qui ont été prises pour éviter la propagation du virus peuvent être un facteur de stress plus ou moins important. De manière générale, c'est toute la population qui est affectée psychologiquement par les mesures. Je cite que des études sur les conséquences du coronavirus de 2002, notamment en Asie, démontrent l'apparition d'une augmentation de troubles psychiatriques conséquents à l'isolement, comme des symptômes identiques à ceux du stress post-traumatique. Alors, est-ce qu'on peut identifier une population qui est particulièrement à risque? Ce sont évidemment les personnes qui ont déjà des troubles mentaux. Ce sont aussi les personnes qui vont rencontrer des problèmes financiers durant cette crise, comme le commerçant qui doit fermer son magasin sans compensation. Mais il faut aussi qu'on pense aux personnes qui sont victimes de violences physiques de la part de membres de leur famille ou de personnes avec lesquelles elles vivent sous un même toit. Elles se retrouvent dans une situation particulièrement difficile où elles sont empêchées de sortir ou elles peuvent aussi être menacées de la part de leurs partenaires violents d'être mises à la rue. Les auteurs d'abus peuvent se servir effectivement du Covid-19 pour essayer d'isoler davantage leurs victimes. Sachant qu'une sur trois femmes au monde rapporte avoir été victime de violences physiques ou sexuelles, en ce temps de crise, il faut qu'on pense particulièrement à ces femmes. En temps de pandémie, il a pu être constaté en Chine qu'en février 2020, le nombre de reports de violences physiques a triplé en comparaison au mois précédent. Alors pourquoi est-ce que notre santé mentale peut être particulièrement affectée en ces temps-ci? On peut identifier quatre facteurs. Le premier facteur est la mesure d'isolement. La deuxième mesure est le distanciement social, même s'il s'agit plutôt d'un distanciement social physique. Les liens sociaux sont très importants. Il est fortement conseillé de les entretenir, de les préserver. Et donc, c'est le lien social physique qu'il faut réduire un maximum en ne plus côtoyant autrui, en évitant les poignées de main, en ne plus exprimant toute manifestation physique d'affectation. Quel est l'autre facteur qui affecte aussi notre santé mentale? Évidemment, c'est l'impossibilité de fréquenter des lieux extérieurs, que ce soit la salle de sport, le café, les restaurants, les bars. Et un autre facteur de stress, d'anxiété, est l'incertitude. Effectivement, on ne sait pas comment va se dérouler cette crise. On ne sait pas combien de personnes vont encore être affectées. On ne sait pas si les mesures vont encore être renforcées, si notre liberté va encore être davantage restreinte, si nous-mêmes on sera touché par la maladie, si on saura en guérir, et surtout quand est-ce que cette crise se terminera. Alors, quelles conséquences est-ce qu'on peut identifier sur notre état de santé mentale? Tout un tas de symptômes différents peuvent apparaître, et je vais en citer les plus importants et ceux qui sont le plus fréquents. Alors, certains troubles mentaux comme le syndrome de stress post-traumatique, mais aussi des syndromes anxio-dépressifs ou des addictions peuvent apparaître. Les troubles mentaux qui étaient déjà présents avant la crise peuvent être aggravés. Au niveau des familles et des couples, on constate une augmentation des divorces et des séparations dans des pays comme la Chine, mais également une augmentation générale des sentiments d'ennui, de frustration et de colère. On peut se sentir pessimiste, facilement irritable, déconnecté, agité, fatigué, mais ayant du mal à s'endormir, une difficulté de se concentrer, mais surtout se sentir impuissant à cause d'un manque de contrôle sur la situation. Il y a également la peur d'être infecté, surtout pour les personnes à risque, les femmes enceintes, les jeunes parents, les personnes âgées. Alors maintenant qu'on a fait un peu le tour des causes et des conséquences, et que je suppose que beaucoup de personnes vont pouvoir se retrouver dans au moins quelques-uns de ces symptômes, quels sont les différents remèdes qui sont à notre disposition? Alors je pense que la première règle d'or est la règle de ne pas se mettre une pression supplémentaire. Évidemment, il y a tout un tas de solutions, de possibilités, de s'organiser, de structurer son quotidien, de prendre soin de soi et des autres, mais effectivement, ces remèdes, ces moyens ne doivent pas devenir en eux-mêmes des pressions qu'on s'inflige en plus. Il faut aller à son rythme, être indulgent avec soi-même. Alors, quels sont les différents remèdes qui sont à notre disposition? Premièrement, ce qui est très très important, c'est de bien gérer l'information. Effectivement, d'un côté, les institutions officielles doivent transmettre des informations claires et précises pour réduire l'anxiété, mais nous-mêmes, on doit aussi prendre en main la manière dont on consomme les informations. On essaye de suivre que les services d'actualité fiables et neutres et scientifiques, qui ne sont pas dans l'exagération ou le renforcement de panique ou l'opinion personnelle. On essaye aussi de se trouver un créneau d'heure où on s'informe sur la situation actuelle et on essaye de ne pas regarder à d'autres moments l'actualité. On ne regarde pas l'actualité le matin en se levant, ni le soir en allant se coucher. Deuxième conseil, c'est d'organiser son quotidien sans retomber dans la pression. C'est-à-dire organiser sa journée comme une journée normale de travail, si on était travailleur, ou d'études, si on était à l'université. Se lever, se coucher à des heures plus ou moins régulières, faire de l'exercice, il y a énormément de tutos sur YouTube, que ce soit du yoga, de la gymnastique, du fitness. Il existe des applications de sport, mais en ce temps de crise, il y a aussi des professeurs de danse, de yoga, de relaxation qui proposent sur Internet des cours live gratuits. Il faut également essayer de se rapprocher un maximum de la nature, dans la limite du possible évidemment. Ouvrir la fenêtre ou profiter du balcon si on peut. On peut éventuellement faire de l'exercice au parc en étant seul ou en gardant une distance appropriée avec les autres. Retourner chez soi après les courses, prendre les escaliers, ne pas prendre les transports en commun, entretenir ses plantes ou ses potagers, cuisiner, manger des repas régulièrement, ça peut aussi être un chouette moment de découvrir d'autres recettes, de s'échanger avec ses amis et de prendre le temps de cuisiner. Le but est d'établir une routine, sachant que chaque règle connaît ses exceptions et qu'on doit donc être indulgent avec soi-même lorsqu'on sort de la routine. Troisième conseil, c'est de préserver le lien social. Effectivement, la proximité sociale permet de gérer l'anxiété. Le bénéfice du lien social n'exige cependant pas la présence physique des autres membres du groupe. Et dans notre monde digitalisé, nous avons beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Que ce soit des appels vidéo avec nos proches, des groupes d'entraide et de solidarité sur Facebook, des apéros Skype ou encore des comptes Instagram. Alors, un autre moyen de sortir de soi tout en respectant les mesures imposées par le gouvernement est de s'engager solidairement, soit en allant donner son sang au CHU Saint-Pierre ou en apportant de l'aide aux personnes malades qui ne peuvent plus sortir pour pouvoir faire leurs courses, leur aider à sortir leurs chiens. Si nous avons des machines à coudre, nous pouvons également participer à fabriquer des masques en tissu. On peut écrire des lettres pour les personnes âgées qui sont en isolement dans les résidences. Et donc tout un tas de choses qu'on peut faire au niveau de l'engagement solidaire et toutes ces informations, vous les trouvez sur Facebook dans des groupes de solidarité. Alors, dernier conseil, c'est également l'appel à l'aide professionnelle. Depuis la crise, on constate une augmentation massive des téléchargements d'applications de santé mentale et de relaxation. Il y a donc de plus en plus de personnes qui font appel à des services psychologiques à distance aussi. Donc des personnes qui avant se préoccupaient moins activement de leur santé mentale sont donc maintenant plus enclins à se confronter et à faire appel à de l'aide extérieure. Évidemment, la plupart des services sont payants, mais il y a beaucoup d'applications de relaxation ou de méditation qui sont gratuites. Il existe également de nombreuses vidéos de méditation, de relaxation pour réduire le stress et l'anxiété en ligne. Et maintenant, je vais vous donner quelques contacts, quelques numéros par rapport à des situations différentes. Il y a un numéro SOS Parents qui propose un soutien psychologique aux parents de 8 à 20 heures. Vous trouvez le numéro sur Internet. Il y a également un collectif de soutien psychologique face au Covid-19. C'est un soutien psychologique gratuit par téléconsultation aux personnes qui vivent des difficultés face à la situation actuelle. Ce n'est pas un suivi thérapeutique au long cours, mais des entretiens ponctuels dans le cadre d'une souffrance liée à la situation actuelle. Si vous voulez les contacter, il s'appelle le collectif Psy Covid-19. Il y a également l'ASBL Le Pélican qui s'occupe de tout ce qui est question de drogue et addiction et qui procure un soutien psychologique pour les consommateurs et leur entourage. Et également, il y a un soutien psychologique pour les personnes soignantes. C'est une ligne d'écoute téléphonique qui est assurée par des psychologues professionnels bénévoles pour leur offrir un espace de soutien individuel. Et vous trouvez plus d'informations sur psynergie.be. Alors, un dernier point pour les victimes de violences. Il y a un numéro d'écoute gratuit pour les victimes de violences conjugales. Pour celles qui ne peuvent pas appeler, un chat est également accessible sur le site écouteviolenceconjugale.be. Et évidemment, en cas d'urgence, composer le 112. Dans ce contexte de violence, la vigilance des voisins est donc particulièrement précieuse. Et elles ne doivent pas hésiter à appeler la police, puisque les victimes, elles, ne peuvent parfois pas le faire elles-mêmes. Alors, en conclusion, une pensée à toutes les personnes qui n'ont pas de toit, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, comme les personnes dans des centres de réfugiés, Pensons aux victimes de violences d'une personne de leur ménage, pensons au personnel soignant, aux ouvriers, aux éboueurs et aux pédaleurs d'Uber Eats, aux personnes qui nettoient et entretiennent les hôpitaux, les supermarchés, aux personnes qui travaillent dans les magasins essentiels. Bref, pensez en eux, soutenons-les de toutes les façons qui sont à notre disponibilité, que ce soit financièrement, matériellement, politiquement. Je vous invite aussi à participer à l'enquête lancée par Lucielle Louvain pour en savoir comment le Covid-19 affecte le bien-être psychologique et social de la population. Vous trouvez toutes les informations sur uciellouvain.be, Covid et moi. Et surtout, je vous souhaite d'être fine et confined.
Merci à Bissi pour l'ensemble de ses conseils. Elle vous partagera l'ensemble des numéros d'aide mentionnés dans sa chronique sur notre page Facebook. On arrive à la fin de notre émission. Merci à Bissi, Elsa et Lisa pour leur chronique. On espère qu'on vous aura fait passer un bon moment et on espère aussi vous retrouver bien vite dans de meilleures conditions. On se laisse avec le coup de cœur musical de BC et le bon vieux WhatsApp de Fawn and Blunt, dont perso, je ne me lasse pas. Bisous!
25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.